Vous êtes sur RTL. 30.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 15 décembre, si vous avez aimé le confinement, vous allez adorer l'auto-confinement. Jean Castex reprend à son compte les dernières recommandations du Conseil scientifique à une semaine des fêtes. Les élèves, eux, pourront ne pas aller à l'école jeudi et vendredi pour limiter les risques de contamination. Nous verrons comment ça va s'organiser. Le monde de la culture, lui, est toujours déconfit et il proteste. À Lille, par exemple, les professionnels du spectacle lancent un marathon des inutiles. Dans RTL Midi aussi, c'est ce qui s'appelle claquer la porte avant même qu'elle ne soit ouverte. Deux des principaux syndicats de police n'iront pas au Beauvau de la sécurité, la grande concertation que souhaite Emmanuel Macron. Un référendum pour introduire le climat dans la Constitution. Le coup politique est signé du chef de l'État, mais il pourrait buter sur l'approbation des sénateurs. Et puis nous vous raconterons l'histoire d'une violence inouïe sur la route pour un simple refus de priorité. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Alors la France est coupée en deux, mais alors à la verticale.
Exactement, avec encore pas mal de pluie sur l'Est, entre le Grand Est, la Méditerranée et l'Occitanie. Alors des pluies plus soutenues sur le relief des Cévennes, parfois orageuses. Petite amélioration tout de même sur la région PACA avec un temps nuageux mais plus sec. Juste quelques flocons sur les Alpes dès 1800 mètres. Et puis sur l'ouest du pays, c'est un ciel changeant. Et plus on se dirige vers les côtes, plus le ciel sera lumineux. Là où finalement le soleil va vraiment briller le plus aujourd'hui, c'est sur la Corse. Les températures, elles sont douces, de 9 à 13 degrés au nord, de 13 à 17 au sud. Et puis je vous rappelle que les Landes sont toujours en vigilance orange cru.
La question du jour sur RTL.fr. Allez-vous vous auto-confiner avant Noël? Eh bien, vous êtes 29% à dire oui, à 65% de non. Deux tiers, un tiers. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. C'est une recommandation, vous le savez, du Conseil scientifique. Nous attendons vos appels. La défense de l'environnement est-elle pour vous une priorité? Emmanuel Macron a ouvert la voie à la tenue d'un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution. La police peut-elle encore intervenir dans les quartiers sensibles? Ce sera également un sujet. Et puis, si vous souhaitez rendre hommage à Ludwig von Beethoven, dont on célèbre ce matin le 250e anniversaire de la naissance, Ludwig von B, comme on dit dans Orange Mécanique, eh bien, n'hésitez pas, à tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Le confinement est terminé, vive l'auto-confinement. Depuis ce matin, vous n'avez plus besoin d'attestation pour vous déplacer. Il faudra juste un motif impérieux pour sortir pendant le couvre-feu, entre 20h et 6h du matin. Et au moment où l'étau se desserre un peu, Jean Castex, qui reprend les dernières recommandations du Conseil scientifique, demande aux Français de s'auto-confiner une semaine avant les fêtes. Mieux, il recommande, si possible, de ne pas emmener les enfants à l'école jeudi et vendredi. Alors faisons le point avec vous, Marie Guerrier. Ça concerne en réalité 12 millions d'élèves et pas seulement les écoliers. On inclut aussi les collégiens et les lycéens. Comment ça va s'organiser un peu en catastrophe?
Eh bien, les recteurs d'académie ont reçu ce matin une note pour dire que les absences d'élèves seront toléré à partir de jeudi. La consigne est passée auprès des établissements scolaires, mais il faudra que les familles préviennent en amont du motif de l'absence, à savoir donc une volonté d'auto-confinement. En maternelle et primaire, pour les plus jeunes enfants, ce sera possible seulement pour les parents qui ont la possibilité de garder leurs enfants à la maison, s'ils sont en télétravail ou s'ils peuvent poser des jours de repos. Le syndicat SE-UNSA estime que la plupart des familles vont garder le rythme scolaire jusqu'à la fin de la semaine parce qu'en fait, elles n'ont pas d'autre choix. Le SNIPP regrette que l'école devienne à la carte, avec d'un côté ceux qui peuvent se protéger du virus et de l'autre ceux qui ne peuvent pas. Le fait d'autoriser les absences, c'est laisser entendre que l'école est un lieu de contamination possible, alors que le ministère se bat contre cette idée depuis la rentrée de septembre.
Et les profs, qu'est-ce qu'ils ont dit?
L'annonce a pris tout le monde par surprise. Comment gérer la fin de semaine? Beaucoup ont prévu des contrôles, des évaluations jeudi et vendredi, comme c'est souvent le cas avant les vacances. Et comment fait-on avec des élèves en moins? Et puis certains enseignants peuvent vouloir eux aussi s'auto-confiner en prévision d'un Noël en famille. Le SNES-FSU, qui représente les profs de collège et lycée, va saisir le ministère de cette question dès aujourd'hui. Pour le moment, l'absence tolérée ne s'applique qu'aux élèves.
Merci Marie. Pas d'école donc potentiellement jeudi et vendredi. Quelles sont les réactions? Étienne Baudu, vous êtes rendu devant le collège Sylvain Menu à Marseille, où les élèves et les parents se sentent un peu pris de court.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Jérôme, lui, par exemple, est un peu perplexe.
Aujourd'hui, on est mardi pour jeudi. Bon,
Mais il y a quand même des gens, a priori, avec du bon sens, qui prennent, a priori, des bonnes décisions pour le bien-être de tout le monde. Mais bon, là, j'ai du mal à voir les tenants, les aboutissants.
Alors, du côté des élèves, il y a bien sûr ceux qui sont tout à fait d'accord quand il s'agit de louper des heures de cours.
J'aime pas les cours, j'aime pas ça. Et du coup, je préfère rester chez moi.
Et puis, celles et ceux qui pensent que c'est quand même peut-être une bonne idée.
Mais après, c'est une bonne idée. Parce que moi, je vais aller voir ma grand-mère et je vais me faire tester avant. Pas aller en cours pour pas choper le Covid.
Et tu es prête, toi, à rester confiné et voir personne la semaine prochaine?
Bah oui, parce que je vois déjà beaucoup de monde au collège et si ça me permet de voir en plus mes proches qui peuvent être à risque, bah oui.
Alors en même temps, d'autres élèves expliquent qu'ils ont de nombreux profs absents en raison de la Covid et préfèrent tout de même aller en cours. Un avis que partage Nathalie, une maman d'élève.
C'est déjà compliqué pour les enfants de travailler avec un certain retard, avec ce qu'on leur demande, avec des profs qui ne sont pas là. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est hors de question.
Un élève précisant qu'il avait d'ailleurs une évaluation en maths jeudi.
Reportage Étienne Baudu, ça tombe bien. À Marseille, invité d'RTL Midi, le professeur Gilbert Deray, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour.
Bonjour.
On déconfine et on s'auto-confine. Alors, on a quand même l'impression d'être dans une injonction contradictoire. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, indispensable aujourd'hui ?
Je crois surtout, si vous voulez, qu'on met en évidence plusieurs choses. La première, c'est qu'on est en train de dire que les fêtes de Noël, c'est un risque. Ce qu'on savait, hein. Et donc, on est en train de le souligner fortement. La deuxième chose, c'est quand on aligne des demi-mesures, on finit par ne plus avoir de mesures du tout. Et donc, la demi-mesure, c'était on enlève le jour de l'an et on laisse Noël, et puis on va rajouter maintenant un confinement pour ceux qui peuvent, etc. Donc, je pense que ça crée beaucoup de désordre. Et que, effectivement, hein, si vous vous confinez une semaine plus un test à J7, vous êtes pas mal, mais combien vont le faire? Comme vous l'avez souligné, c'est un tiers peut-être des Français. Et puis se confiner une semaine, c'est pas si simple, hein, et pour les parents et pour les enfants. Par définition, Noël, c'est une fête intergénérationnelle, donc on va faire prendre des risques aux plus âgés, qui sont, comme vous le savez, évidemment les plus à risque, et en même temps, en les mettant en position d'être avec les jeunes qui, eux, sont sans symptômes et qui peuvent porter le virus. Donc je pense que c'est beaucoup de désordre, je pense que c'est tout simplement irréalisable, et qu'on paye un prix élevé au fait de ne pas avoir pris la bonne décision, qui était de dire que 2020 étant ce qu'elle est, il ne fallait pas faire cette fête de Noël, il fallait la faire plus tard. J'ai parfaitement conscience que c'est évidemment dans cette période...
Vous pensez que politiquement, franchement, c'était recevable, aurait fallu le courage politique de le faire, c'est ça?
Exactement, de la même façon que quand j'entends des hommes et des femmes politiques critiquer le vaccin n'importe comment, j'ai bien dit n'importe comment, on peut le critiquer, mais pas n'importe comment, je suis atterré, car ils ont une lourde responsabilité. Nous avions une décision qui n'a pas été prise, qui était de ne pas faire cette fête de Noël, de ne pas faire prendre de risques. Et moi, en tant que personne, moi je veux pas être celui qui va perdre un de ses proches juste avant la fin de ses guerres sanitaires. Moi je veux pas être le dernier à mourir sur le champ de bataille sanitaire, c'est exactement ça. Et donc, à défaut, puisque ça n'a pas été fait, moi ce que je crois il faut dire, et ça c'est plausible, mais une fois de plus je regrette qu'on n'ait pas annulé, c'est un terme un peu violent, on va encore nous accuser de dictature
sanitaire.
Non mais
pardon de vous interrompre, professeur Deray, mais supprimer Noël, vous êtes médecin. Le nombre de dépressions grimpe en flèche, en particulier depuis le début de ce deuxième confinement. Absolument. Les Français n'en peuvent plus. On ne pouvait pas leur dire ça.
Si. Enfin, moi, je crois que si. Parce qu'en fait, en face, on a quoi? Je suis très, très sensible à ce que vous dites, bien entendu, et encore plus comme médecin. Mais c'est quoi la perspective? C'est pas une perspective sans fin. Je ne parlerai pas comme ça si je n'avais pas devant moi, dans les mois qui viennent, une sortie de crise qui est par le vaccin. Et en fait, le message qu'on doit dire, c'est qu'on a payé cher, avec 60 000 décès en France, 1,6 million dans le monde, mais qu'on a devant nous une sortie de crise. On va commencer à vacciner par dizaines de millions de personnes dans le monde.
Oui, mais elle va prendre un an.
Elle va prendre 6 à 9 mois, ce qui, dans une crise mondiale de cette nature, évidemment, est encore beaucoup de temps, mais en même temps, enfin, on a une perspective. Et puis, d'ici quelques semaines, quand on aura vacciné les personnes les plus à risque, on devrait voir diminuer le risque d'hospitalisation et d'augmentation de la réanimation. Les mesures, on va pouvoir les lever progressivement. Je comprends ce que vous me dites, mais est-ce qu'il faut sacrifier des vies maintenant, alors qu'on sait qu'on va en sortir? Par ailleurs, le courage politique ou le courage global, pas que politique, médical, politique, moi je crois que c'est la seule solution. Il faut mettre de l'émotion dans cette crise. Et l'émotion actuelle, c'est de dire oui, c'est dur. Oui, c'est pas bien ce qu'on va faire, je parle pour ceux qui nous dirigent, mais vraiment, pour vous sauver, c'est ça qu'il veut faire. Moi, c'est ça le message auquel je crois. Et on oublie encore d'autres choses, hein, c'est que On est en train de créer des dizaines de milliers de Covid dits longues, c'est-à-dire des séquelles à vie pour certaines patients. C'est plus compliqué que la simple hospitalisation, réanimation. Oui, on est dans une période de transition et le courage est de dire, nous médecins, enfin moi en tout cas, et ceux qui nous dirigent, nous avons encore un petit bout de chemin très difficile à faire ensemble, faisons-le. On va sortir de cette crise.
On va sortir de cette crise, c'est les mots que je retiens. Merci Gilbert Deray. Il faut tenir, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. La crise sanitaire ne profite pas à Jean Castex. Il ne recueille que 37% d'opinion favorable d'après le baromètre Odoxa pour la presse régionale. Il sert en quelque sorte de paratonnerre à Emmanuel Macron. 55% des Français ne le trouvent pas compétent. 65% pas dynamique. Une pause et dans un instant, l'opération J'existe du monde de la culture.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Jean Castex demeure prudent. Le Premier ministre affirme ce matin qu'il ne peut pas garantir aux restaurants qu'ils rouvriront le 20 janvier. C'est un crève-cœur, mais c'est nécessaire, ajoute-t-il. Quant à la culture, eh bien, elle reste en mode mineur. La réouverture prévue aujourd'hui attendra le 4 janvier au mieux pour les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle. Et ce matin, à Lille, des professionnels du spectacle ont lancé un marathon des inutiles sur les marches de l'Opéra, Franck Hanson.
Oui, ces artistes et intermittents nordistes sont donc partis en cortège entre cynisme et humour vers la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, rebaptisée en supermarché, en ce jour où ils espéraient remonter sur scène.
Normalement, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on devait jouer. On ne peut pas, donc on est là. Là, la colère commence à monter et l'inquiétude.
Histoire de montrer qu'ils sont toujours vivants, ces professionnels lancent donc ce marathon des inutiles, des actions culturelles pour communiquer leur colère. Maxime Séchaud est metteur en scène et délégué du syndicat des artistes interprètes.
Au vestige du temple de la culture, nous ne serons pas une simple grande surface. Nous serons un domaine de la consommation accessible à toutes et à tous.
Pour Charlotte Talpart, comédienne lilloise, les théâtres auraient pu réouvrir pour Noël.
C'est quel choix de société on fait? A priori, il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres, mais a priori, ce serait plus dangereux que d'aller dans les lieux de consommation. C'est des répercussions à deux, voire trois saisons, en fait. Il y a à la fois des vraies revendications de travailleurs et surtout l'absurdité, en fait. On est là pour que ça ouvre demain.
Cette mobilisation va se poursuivre jusqu'à samedi. Un peu de spectacle en extérieur.
À Paris, une manifestation a lieu actuellement place de la Bastille et dans toute la France, les enseignes de cinéma se rallumeront de manière symbolique entre 17h et 18h. Pour en revenir aux élèves qui n'iront peut-être pas à l'école jeudi et vendredi, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, sera l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir à 18h15. Un Beauvau de la sécurité. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron lançait l'idée d'une grande concertation sur la police pour mettre à plat la formation, l'encadrement ou encore le lien police-population. Le problème, c'est que deux des principaux syndicats de police vont pratiquer la politique de la chaise vide, alliance majoritaire chez les gardiens de la paix et une SA police. Thierry Clerc en est le secrétaire général.
S'agit-il d'une énième réunion ou d'un véritable plan d'action? Nous avons un certain nombre de dossiers qui sont en attente, sur lesquels il y a des engagements d'État qui ont été pris, que ce soit dans un protocole, celui de 2016, que ce soit lors de l'audience qui nous a été accordée par le président de la République le 15 octobre. Et ce que l'on attend, ce sont des réponses tangibles, en tout cas sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, avant même d'entamer, je dirais, une nouvelle réunion. La façon dont, effectivement, le Beauvau de la sécurité a été annoncé, sur la forme, en tout cas, je dirais, pour le moins maladroite. Elle ne répond en fait qu'à une seule organisation syndicale, alors que l'UNSA Police et d'autres organisations syndicales ont toujours été force de proposition. Nous allons exposer au ministre de l'Intérieur, qui doit nous recevoir vendredi, en tout cas, l'ensemble de ses préoccupations. Nous attendons des réponses concrètes sur les sujets qui ont été déjà abordés, parce que lancer de nouvelles pistes, alors qu'un nombre de dossiers importants sont déjà en cours et pour lesquels nous n'avons pas de réponse, je dirais, à quoi bon ?
Thierry Clerc avec Alice Moreno. Emmanuel Macron a fait un coup politique devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a dégainé un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution. Mais ce référendum verra-t-il vraiment le jour d'ici la fin du quinquennat? Pas si sûr, puisque l'idée doit être adoptée par le Parlement et le Sénat. Marie Mollet pourrait tout bloquer.
Oui, car le Sénat est dominé par une majorité de droite qui a donc le pouvoir de faire capoter ce référendum. Donc un dilemme se pose pour les sénateurs LR. Vont-ils voter pour et faire ce cadeau à Emmanuel Macron à un an de la présidentielle? Ou vont-ils voter contre au risque de donner l'image d'un Sénat anti-écolo? On voit bien le piège que nous tend Emmanuel Macron, lâche un conseiller LR. Mais sur tous les bancs, les sénateurs dénoncent un référendum. Coup de com', Guillaume Gontard est patron des sénateurs écologistes. écologiste.
On n'est absolument pas dupes sur le coup de com' et le show qu'a fait Emmanuel Macron hier soir. Bon, dans notre pays, on a aussi un peu tendance, quand on ne veut pas quelque chose, on utilise le référendum. Hein. Si c'est sûr que ça reste au bout du compte que de l'affichage et que ça ne change rien dans les faits, ça ne servira à rien. Et je ne sais pas si on s'abstiendra ou si... Voilà, mais en tout cas, il faut que ça soit efficace.
Et puis, autre question, comment faire rentrer l'examen de cette réforme dans un calendrier parlementaire déjà plein à craquer.
Marine Le Pen dénonce une énième manœuvre politicienne de la part d'Emmanuel Macron. Le numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, y voit un cynisme creux. Dans un instant, une conductrice tabassée pour un refus de priorité. On vous raconte cette histoire.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est une scène banale. Une automobiliste qui refuse une priorité à un autre conducteur. Ça s'est passé à Custine, en Meurthe-et-Moselle, il y a quelques jours. Sauf que l'autre chauffeur s'est carrément défoulé sur elle, Thomas Proutot.
Absolument. L'altercation a pourtant commencé par quelques doigts d'honneur, d'après le récit de la jeune femme aux gendarmes. Jusque-là, rien que du classique. Mais le conducteur, privé de priorité, n'en est pas resté là, selon elle. Il s'est élancé à sa poursuite sur l'A31. Klaxon, queue de poisson, coup de pression vers la bande d'arrêt d'urgence. Une course ultra dangereuse. Selon la conductrice de 36 ans, accompagnée de la fille d'une amie. Étape suivante, l'homme, ni policier ni gendarme, a sorti alors un gyrophare bleu. L'automobiliste s'est bien évidemment arrêté sur une aire de covoiturage, inquiète. Et c'est là que le chauffard est descendu de son véhicule et lui a porté plusieurs coups de poing au visage par la fenêtre ouverte. C'est une amie qui l'a suivi en voiture qui a mis fin au coup. L'agresseur a pris la fuite. Choquée et légèrement blessée, la jeune femme a été transportée aux urgences. Selon le parquet de Nancy, l'homme qui a perdu ses nerfs, c'est le moins qu'on puisse dire, est toujours en cours d'identification.
C'est assez terrifiant. Merci Thomas. Il aura attendu le dernier moment. Vladimir Poutine vient de féliciter Joe Biden pour son élection à la Maison-Blanche, puisqu'il est désormais définitivement élu par le collège électoral. Il se dit même prêt à collaborer avec lui. Joe Biden dénonce le refus obstiné de Donald Trump de reconnaître sa défaite et invite l'Amérique à tourner la page. L'Europe met les GAFA sous surveillance. Les géants du numérique, Facebook, Amazon et autres Google, ne respectent pas les règles de concurrence. La protection des données, l'interdiction des contenus haineux. Le commissaire européen Thierry Breton parle même de Far West. Et la tâche s'annonce colossale, Bénédicte Tassard.
Et oui, la directive sur le commerce électronique date déjà d'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, 40 000 milliards de données circulent sur le net et ce sera le double dans 18 mois seulement. Il est donc temps que Bruxelles revoie sa législation. D'abord, les grandes plateformes devront expliquer pourquoi telle voiture ou paire de chaussures vous est recommandée quand vous ouvrez un moteur de recherche. Qui est derrière les publicités qui s'affichent sur votre écran? Pourquoi êtes-vous ciblé? Google, par exemple, ne pourra plus rendre davantage visibles ses propres services et pas ceux des autres e-commerçants. Autre domaine, la sécurité. Les plateformes vont devoir embaucher davantage de modérateurs pour retirer les contenus dangereux. Halte également aux arnaques. Les Amazon, Instagram et autres devront contrôler les revendeurs qui s'affichent sur leur page et éviter ainsi les contrefaçons ou encore les produits qui ne correspondent pas aux normes européennes. Sinon, les géants du net se verront infliger une amende jusqu'à 6%, voire 10% de leur chiffre d'affaires et même se voir menacés de démantèlement.
Bénédicte Tassard en sport. Cette information RTL, Frédéric Thirier, l'ancien président de la Ligue de football professionnel, va présenter sa candidature à la présidence de la Fédération. L'élection aura lieu au mois de mars. Il menait depuis le 23 novembre, mais dans le Vendée Globe, Charlie Dalin pointe en ce moment la troisième place. Il tente de réparer son bateau, victime d'un problème de structure. Thomas Ruyant a pris la tête de la course autour du monde en solitaire entre le sud de l'Australie et le Cap Horn. On se rend compte, Patrice Gabart, que les bateaux de nouvelle génération qui devaient permettre de battre des records souffrent énormément.
Absolument, et le coup est rude d'ailleurs pour Charlie Dalin, car à la différence du nordiste Thomas Ruyant, victime lui aussi d'une avarie folle il y a 3 semaines, c'est pas la conséquence d'une collision avec un OVNI, objet flottant non identifié, et l'appendice n'est pas abîmé, donc il ne suffit pas de sortir la scie et couper un morceau de l'aile comme l'avait fait le nordiste le 25 novembre dernier. La réparation est beaucoup plus délicate puisque l'avarie concerne une pièce qui soutient le foil par-dessous à l'intérieur du bateau, ce qui peut à terme le fragiliser. Le skipper du Havre a lancé les réparations ce matin, verdict dans l'après-midi, mais En effet, ce nouvel épisode confirme la fragilité des foilers dans des conditions de vent et de mer difficiles pour ce type de bateau, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le départ du Vendée Globe avec le retour au Sable d'Olonne de Jérémy Bayou et la totalité des 6 abandons de la course, dont 3 bateaux neufs, en particulier celui du Britannique Alex Thomson qui était l'un des grands favoris. Pendant ce temps, aucun des 14 bateaux classiques sans ailes n'a baissé pavillon et 3 d'entre eux jouent même les premiers rôles derrière le trio de tête. Au dernier pointage ce midi, Jean Le Cam est 4e, Benjamin Dutreux 5e et Damien Seguin 7e. Un scénario inattendu à ce stade de la course qui démontre bien qu'il ne fallait pas enterrer trop vite les vieux bateaux qui ne volent pas.
Voilà, et tout reste ouvert. Merci Patrice Gabart. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans 7 minutes maintenant. Pascal, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Déconfinez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite.
Oui, c'est une invitation.
Sachez me convoiter.
Déconfinez-moi, mais c'est ça le thème du jour, ami. Mais oui, c'est important quand même de se déconfiner.
Bon, alors, vous avez entendu le professeur De Rey tout à l'heure qui disait
le professeur
que
De Rey, je l'entends,
on n'aurait même pas dû déconfiner à Noël.
Voilà, chacun.
C'est un argument.
Mais ces arguments-là, les arguments de monsieur De Rey s'entendent. Le problème, c'est que les arguments du monde de la culture s'entendent. Moi, à chaque fois que j'entends le monde de la culture, j'ai envie de penser comme les gens de la culture. À chaque fois que j'entends monsieur De Rey, j'ai envie de penser comme monsieur De Rey. C'est très compliqué. C'est ça la difficulté de cette séquence. Je pense quand même que les théâtres et les cinémas devraient être rouverts. Manifestement, il n'y a pas d'études qui prouvent que ce sont des clusters. Mais j'entends ce que dit M. De Rey. On pourra également parler de la défense de l'environnement. Est-elle pour vous une priorité? Même si on comprend que ce référendum, il y a peu de chances qu'il soit proposé. Parce que le Sénat, sans doute, ne fera peut-être pas ce cadeau, pour reprendre les termes que j'ai entendus dans le journal,
à Emmanuel Macron.
C'est ce que je comprends. Est-ce que si les Républicains ne votent pas pour ce référendum, il n'y a pas de référendum.
Pas dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, ça ne marchera pas.
Nous sommes d'accord.
Oui,
donc, voilà. Et puis, on pourra parler, évidemment, des policiers également. La police peut-elle encore intervenir dans les quartiers sensibles? Et puis, on parlera de Beethoven. Pourquoi? On va essayer de dire aux auditeurs, tenez, c'est du Beethoven, et vous ne le savez pas forcément. Combien Beethoven est présent dans la pub, dans la lettre à Elie? Je ne sais pas si vous avez fait du piano quand vous étiez enfant. Tout le monde fait ça.
Tout le monde la massacre aussi un peu.
Vous savez que Elie, en fait, c'était pour une femme qui s'appelait Thérèse.
Ah oui?
Oui. Et alors, lettre à Thérèse, c'était moins joli, peut-être. Mais c'est vrai, je ne vous raconte pas de bêtises. Et donc, ça s'est appelé lettre à Thérèse. Lettre à Élise. Autrement, on dirait lettre à Thérèse.
Voilà.
Célèbre dans le Père Noël est une ordure.
Pendant le confinement ou le déconfinement.
Hein, chère Thérèse.
Voilà. Allez, Thérèse. Non, vous, c'est Peggy Broche.
Voilà.
Peggy pour la météo. On profite de cette douceur.
Oui, parce qu'on est au-dessus des 10 degrés quasiment partout. Hein, cet après-midi, mis à part à Mulhouse et Langres où on a 9 degrés, mais c'est pas mal. 11 à Metz, Lille et Cherbourg, 12 à Limoges et Toulouse, 13 à Lyon comme à Paris, 15 à Marseille, 16 à Biarritz, 17 à Perpignan et même 18 degrés à Ajaccio. Alors côté ciel, ça reste pluvieux sur la moitié est du pays, entre l'Alsace-Lorraine et les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les pluies sont plus soutenues, voire localement orageuses hein, sur le relief des Cévennes. C'est plus sec par contre et donc ça va un petit peu mieux sur la région PACA. Il y a juste quelques flocons sur les Alpes dès 1800 mètres et puis c'est même très ensoleillé en Corse. Maintenant, sur l'ouest du pays, on va vers l'amélioration par rapport à ce matin, de moins en moins d'averses, de plus en plus d'éclaircies et plus on va vers les côtes, plus le temps est agréable. Et puis, petit rappel pour terminer, les Landes restent en vigilance orange pour crue.
Bon, et demain, ça s'arrange, bonne nouvelle?
Ça s'arrange globalement, oui. Après dissipation des grisailles matinales, surtout nombreuses sur l'est du pays, on retrouvera un temps sec et variable, donc entre nuages, éclaircies. Quelques exceptions tout de même, la Bretagne, puisque le matin, on a une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse. Elle va légèrement se décaler dans la journée entre les pays de la Loire et la Normandie. Elle sera moins active. Et puis, deuxième zone couverte avec quelques averses éparses, toujours vers le Languedoc avec ses entrées maritimes, le relief des Cévennes et jusqu'à la Côte d'Azur. Côté température demain, peu de changements, même si on aura une légère baisse le matin. Ça restera doux pour la saison avec des maximales comprises entre 10 et 16 degrés.
Merci Peggy. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL. Restez avec nous.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Allez-vous vous auto-confiner avant de retrouver vos proches à Noël? Bonjour François.
Bonjour Pascal. Eh bien, je dirais auto-confinement, auto-verbalisation bientôt.
Bon, Vous allez préciser votre pensée parce que c'est pas forcément clair. Le rappel des titres avec Christelle.
Oui, et cette France entre déconfinement et autoconfinement, Jean Castex reprend à son compte les dernières recommandations du Conseil scientifique. S'isoler durant une semaine avant le réveillon de Noël. Les 12 millions d'élèves, eux, pourront ne pas aller à l'école jeudi et vendredi pour limiter les risques de contamination. Le couvre-feu entre en vigueur aujourd'hui entre 20h et 6h du matin. Seul le 24 décembre fera exception. À Marseille, la maire Michèle Rubirola réunit sa majorité cet après-midi. Elle pourrait annoncer qu'elle renonce à son fauteuil de maire au profit de son premier adjoint socialiste Benoît Payan. L'écologiste Michèle Rubirola avait succédé en juillet dernier à Jean-Claude Gaudin. Les syndicats de police Alliance et UNSA refusent de participer au Beauvau de la sécurité. Cette grande concertation annoncée par Emmanuel Macron, il dénonce un énième séminaire sans mesures concrètes. La revalorisation automatique du SMIC au 1er janvier devrait s'établir aux alentours de 1%. Elle doit être officialisée demain en Conseil des ministres. Il ne devrait pas y avoir de coup de pouce supplémentaire. Cette hausse représentera environ 15 euros par mois.
Les auditeurs ont la parole.